L'horoscope rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée un fils qu'il aima trop, jusque à consulter sur le sort de sa géniture les 10 heures de bonne aventure. Un de ses gens lui dit que des lions, surtout, il éloigna l'enfant jusqu'à un certain âge. Jusqu'à 20 ans, au point d'avantage. Le père, pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait, défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait, sans sortir, contenter son envie, avec ses compagnons, tout le jour badiner, sauter, courir, se promener. Quand il fut en âge où la chasse se plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut dépeint. Mais, quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change un tempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus grand fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses, et comme ce logis plein de magnificence abondait partout en tableaux, et que la laine et les pinceaux traçaient autour de tous côtés chasses et paysages, en cet endroit des animaux et cet autre des personnages, le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah, monstre ! » cria-t-il, « c'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » À ces mots, il se livre au transport violent d'indignation. Porte le poing sur l'innocente bête, sous la tapisserie un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. Et cette chère tête, pour qui l'art d'Esculape en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à ses soins, compris pour son salut. Même précaution nuisit au pays poète Eschyle. Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle, qui portait dans l'air une tortue, passa par là, vit l'homme et, sur sa tête nue, qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie, afin de la casser. Le pauvre Eschyle ainsi, sur ses jours avancés de ses exemples, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les maux que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois point que la nature se soit liée les mains et nous les lie encore jusqu'au point de marquer dans les lieux cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture, de lieux, de personnes, de temps, non des conjonctions de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le sceptre et l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est-ce que Jupiter? Un corps sans connaissance. Alors d'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes-ci? Puis comment pénétrer jusque à notre monde? Comment percer des airs la campagne profonde? Percer Mars, le soleil, et des vides sans fin. Un atome la peut détourner en chemin. Où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscope? L'état où nous voyons l'Europe mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu. Mais que nous a-t-il donc dit? Mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celle aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions? Notre sort en dépend. Sa course, entresuivie, ne marche non plus que nous, jamais d'un même pas. Et ses gens veulent au combat tracer le cours de notre vie. Il ne se vaut point arrêter aux deux faits ambigus que je viens de conter. Ce fils part trop chéri, ni le bonhomme Eschyle n'y font rien. Tout aveugle et menteur qu'est cet art, il peut frapper au but une fois entre mille. Ce sont les effets du hasard.